J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait.
Moi, je suis André Dimbouimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous. Le gouvernement congolais a décidé depuis 2011 de liquider la banque congolaise BC, déclarée en faillite par la Banque centrale du Congo. Trois ans après, aucun résultat du processus de liquidation n'est fourni. Les clients à travers le pays ne savent à quel sens se vouer pour rentrer dans leurs droits. Les agents et cadres de cette banque sont renvoyés sans indemnité de sortie. Nous en parlons dans cette émission avec comme question principale, quel regard avez-vous sur ce processus de liquidation? Vous pouvez nous rejoindre pour participer en direct à cette émission à l'adresse pa@radiokapi.net et vous avez la possibilité de nous appeler au 081-890-6315 ou bien au 081-890-4969. Merci à Berry Fontaine Luchaka et Guy Manzangou qui réalisent cette émission qui est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikon Gaka. A toutes et à tous, excellente condition d'écoute.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
Voilà, nous avons notre invité qui est en ligne, Emmanuel Michel Somouin. Somouin, bonjour Michel.
Bonjour Gilles.
Vous êtes économiste. Dans un principe, en fait, par principe, un processus de liquidation prend combien de temps?
Ben, je ne peux pas dire vraiment la durée précise que peut prendre. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais je crois que ça dépend beaucoup de facteurs. La taille de l'entreprise qui est en faillite ou qui est déclarée en faillite, qui est en liquidation, elle compte aussi pour beaucoup. Sa taille, ça veut dire la dimension de son actif, de son passif en même temps. L'actif qu'il faut réaliser pour pouvoir apurer le passif, le temps que ça peut prendre pour y parvenir. Par exemple, si l'actif est constitué des choses comme des immeubles, ça prend parfois le temps pour trouver des clients afin de réaliser des immeubles. Mais généralement, ça dépend, ça peut varier entre, ça peut se faire en une année, ça peut prendre un peu plus de temps qu'une année. Il n'y a pas à ma connaissance
une durée
standard qui soit déterminée.
Alors, quelles sont les étapes à suivre dans ces processus?
Dans le processus de liquidation, on évalue naturellement, au départ, on évalue d'abord l'actif et le passif de l'entreprise concernée. Plus principalement le passif, parce que quand on liquide une entreprise, on doit s'intéresser à désintéresser les créanciers de l'entreprise. Dans le cas, par exemple, dans le cas d'une banque, il y a des clients qui avaient ouvert des comptes auprès de la banque, ça fait partie du passif de la banque. Il y a les actionnaires de la banque qui avaient fourni à celle-ci le capital. Il y a eu d'autres prêteurs qui peuvent être d'autres banques, d'autres organismes internationaux ou nationaux, l'État peut-être. Et une fois qu'on a l'idée du passif, exact, on a évalué le passif. On va maintenant du côté de l'actif. Comment la banque va-t-elle pouvoir rembourser ses dettes, désintéresser ses créanciers? Là, c'est aussi une étape. On prend c'est tout le liquidateur qui s'occupe de ce genre de choses. Il va regarder la taille de l'actif et évaluer sa réalisabilité, si vous me permettez le terme. Comment on peut vendre les différents biens qui sont à l'actif de la banque pour pouvoir désintéresser les concernés. Donc, c'est la première étape, l'évaluation du passif et de l'actif. Et puis après, on commence à désintéresser les uns les autres.
Alors aujourd'hui, pour les cas de la banque congolaise, BC, c'est vrai que nous avons tous suivi l'actualité. Trois ans après, les gens se posent la question, pourquoi il n'y a pas toujours des résultats fournis?
À propos de la, pour parler spécifiquement de la banque congolaise, je crois qu'il y a trop de problèmes. Parce que quand je vous parle d'entreprise, je parle d'une entreprise, au sens propre, normal du terme. Quand on parle d'une banque, on parle aussi d'une banque au sens propre du terme. J'ai l'impression que souvent, pour ce qui nous concerne, ce que nous appelons banques sont des structures un peu plus compliquées que des banques, des structures un peu moins lisibles, un peu plus opaques, pour nous faciliter la tâche, notamment aux liquidateurs, et permettre aux créanciers de rentrer dans leurs droits. Alors, s'agissant justement de parler de la banque congolaise, je sais que c'est une structure trop compliquée. Parce que, déjà, sa faillite, elle devrait faire l'objet d'une étude plus profonde et plus sérieuse.
Mmh.
Et nous amener à des conclusions sur l'organisation de notre système bancaire au Congo. Nous savons que la banque congolaise, c'est déjà une confusion énorme en elle-même.
Une confusion.
Quand vous lisez son actionnariat, quand vous regardez aussi bien son passif que son actif, c'est plein de confusion. Vous savez que la banque congolaise, c'est une création un peu farfelue comme ça de quelques individus qui ont assumé des responsabilités personnelles dans la faillite de la banque, des responsabilités personnelles. Vous savez aussi que la banque congolaise est le produit d'une mafia de ces individus. Et la preuve, c'est que le numéro 1 de la banque a été condamné, il a été coué, il a été mis au frais. Il en est sorti de façon très difficile à comprendre, très difficile à expliquer. Aujourd'hui, il est libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Avant qu'on ait désintéressé les créanciers, la banque est libre. C'est beaucoup trop de choses.
Oui, mais
ce n'est pas une banque normale.
Oui, à ces jours, on se rend compte par rapport à vos propos qu'il y a un flou autour même de bilan de cette banque et même au niveau de la construction de son capital. Alors, à ces jours, pourquoi les clients n'entrent-ils pas toujours dans l'air droit?
Pour répondre à cette question, j'allais vous renvoyer à des liquidations antérieures des autres banques qui ont déjà eu lieu dans ce pays, notamment la BCCE, la Banque Congolaise du Commerce Extérieur. Et je peux vous dire que un grand nombre de clients de cette banque n'ont jamais été remis dans leurs droits. La banque a été pourtant liquidée, je crois, si ma mémoire est bonne, depuis 1990. On l'a liquidée, on l'a reliquidée, on l'a déclarée en faillite, on l'a remise en fonctionnement. Il y a beaucoup de confusion dans l'organisation bancaire congolaise. Vous savez, prenez seulement l'image d'une banque déclarée en faillite et mise en liquidation par la Banque Centrale du Congo. Mais cette même banque en faillite, mise en liquidation par la Banque Centrale du Congo, reçoit des crédits de la Banque Centrale du Congo. C'est arrivé dans le cadre de la BCCE, par exemple. Donc, vous comprenez la confusion qu'il y a dans l'organisation du système financier et bancaire de notre pays. Donc, ces clients-là de la BCCE, la plupart n'ont pas été désintéressés. Les agents de la BCCE n'ont pas été remis dans leurs droits. Il en est de la BCCE comme il en est de la Banque de Crédit Agricole, pour ce qui concerne, je peux dire, des créanciers de cette banque. Donc, chaque fois qu'on a liquidé une banque, l'Union Congolaise des Banques, qui a été liquidée au profit, justement, de la Banque Congolaise, une acquisition calamiteuse d'une banque qui était utile au pays pour créer une confusion. Mais est-ce que les agents de l'Union Congolaise des Banques, l'UCB ou l'UBC, je crois qu'on s'appelle maintenant, est-ce qu'ils ont été désintéressés? Donc il y a quelque part aussi un brin, parce que je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais je dirais qu'il faut tenir compte justement de la taille de la banque. Est-ce que la banque est dans la façon dont elle a été gérée et dans la façon dont elle est tombée en faillite, est-ce qu'elle peut disposer des ressources nécessaires au remboursement de ses clients? Prenons le cas justement de la banque congolaise. Quelle est la taille de cette banque? Son actif est constitué de quoi? On sait qu'elle avait près d'une dizaine d'agences et succursales. Mais qu'on regarde les actifs, quand on a le bilan de la banque congolaise, je ne l'ai pas dans mes mains, qu'on regarde les actifs, le total bilantaire de cette banque-là, en termes d'actifs, elle a quoi? Combien d'immeubles lui appartiennent en propre, sinon l'UBC, le patrimoine
oui, donc vous parlez de
banques qu'on a bradé justement par pour le souci de donner ça aux individus. Et je ne sais même pas au nom de qui, si vraiment c'est plutôt, c'est bien là, c'est encore au nom de la banque, je ne sais pas. Parce que je vous dirais, par exemple, en ce qui concerne la Banque Congolaise du Commerce Extérieur, qu'une énorme partie du patrimoine de cette banque-là a été bradée et on a donné à des individus qui n'ont aucune qualité le titre de propriété d'une banque. Est-ce que cela, il n'en est pas ainsi de la Banque Congolaise qui a acquis des biens de l'Union Congolaise des banques? Peut-être parce que, je suppose, il faut mener des enquêtes. Est-ce qu'il n'y a pas des individus qui se sont déjà accaparés d'une partie de ce patrimoine?
Voilà.
Ce sont des questions qu'il faut se poser. De toute façon, il est question maintenant de voir est-ce que le total des actifs de cette banque, s'il est réalisé aujourd'hui, est-ce que ça peut aider à rembourser les clients de la banque?
Oui. Alors une inquiétude, Monsieur Michel Somoué, parce qu'aujourd'hui, nous avons tous constaté, au moment où cette banque a été déclarée en faillite, nous avons vu la Banque Centrale passer à la vitesse supérieure en proposant même le redressement de cette banque et en disponibilisant un montant un peu considérable. Mais cela n'a pas marché et par la suite, on est passé à la deuxième étape de liquidation. Aujourd'hui, pendant cette période, qu'on a dû amorcer le processus de liquidation, les agents et cadres de cette banque étaient et continuent à être payés. Et avec quels moyens, avec quelles ressources?
Bon, d'abord, pour parler de des réformes de la Banque Centrale pour essayer de redresser la Banque Congolaise, je devrais vous dire que de ma petite expérience de banquier central, à la Banque Centrale du Congo justement, je n'ai pas dans ma mémoire d'homme le souvenir d'une seule banque qui a été mise sous gestion administrative de la Banque Centrale, qui a été épargnée de la faillite. Je ne connais pas une seule. Toutes les banques que la Banque Centrale a voulu prendre à charge pour les redresser, et même les banques que la Banque Centrale avait acquises à titre de propriété, je prends le cas par exemple de la NBK, parce que la NBK à un moment donné était devenue la propriété de la Banque Centrale, actionnaire à 95% dans cette banque. Toutes ces banques-là ont été toutes liquidées, ou plutôt, oui, déclarées en faillite et liquidées, parce qu'elles sont passées par les mains de la Banque Centrale qui, à la place d'une thérapie de guérison, a mis une sorte d'euthanasie aux banques. Il n'y a pas une seule banque qui est passée par les mains de la Banque Centrale, qui a été sauvée. Quant au processus en cours de paiement des agents de la banque, c'est ce que je venais de vous dire, des confusions habituelles que nous connaissons dans ce pays, derrière des fausses liquidations, fausses faillites, des opérations de mafia qui se passent dans ce pays. Je vous ai dit qu'il en est ainsi de la BCCE. On a connu dans ce pays la Banque du Congolais et du Commerce Extérieur, déclaré en faillite et en pleine période de liquidation, est encore admise à la chambre de compensation de la Banque Centrale pour recevoir des financements de la Banque Centrale du Congo comme si c'était une institution normale. Donc recevoir des prêts de la banque pour fonctionner comme si c'était une institution normale. Donc ça ne m'étonne pas, je tente de vous dire que au-delà d'entrée, je vous ai dit que si au moins on peut parler d'entreprise en liquidation, on a l'image d'une entreprise normale. Mais le cas des banques qui fonctionnent au Congo est un cas pathologique, c'est un cas spécial.
Merci beaucoup, monsieur Michel Somoué. Nous vous gardons en ligne. Il est le temps d'ouvrir le standard pour accueillir les auditeurs qui vont débattre avec nous dans cette émission 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Nous recevons le premier auditeur qui est en ligne, Maître Adrien, qui est à Kananga. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour Pierre, bonjour à M. Michel Somoué.
Alors, je l'ai dit tantôt, 3 ans après, aucun résultat du processus de liquidation n'est fourni. Les clients à travers le pays ne savent à quel sens se vouer pour entrer dans leurs droits. Les agents et cadres de cette banque sont envoyés sans indemnité de sortie. Alors, quel regard avez-vous sur ces processus de liquidation de la Banque Congolaise?
Oui, merci Pierre pour la parole. D'entrée de jeu, il faut reconnaître qu'il y a vraiment la mauvaise foi autour de cette question, parce que la liquidation a été déclarée depuis 2011, comme vous l'avez dit. C'est vraiment inacceptable pour que ça puisse prendre beaucoup de temps comme ça, à peu près 3 ans, nous entrons maintenant à la 4e année. Et dans l'entretemps, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un processus qui commence déjà à désintéresser les abonnés de cette banque. Mais nous savons, hier, que sur le plan du droit, parce que nous avions très bien suivi M. Michel Sommet, mais sur le plan du droit, la banque congolaise est inexistante. Donc, elle n'existe plus sur base d'une décision judiciaire reconnaissant cette banque en faillite. C'est-à-dire, lorsque cette banque-là n'existe plus, c'est la banque nationale congolaise, donc la BCC, la Banque Centrale Congolaise, qui prend fait et cause de cette banque qui travaillait sous sa gouverne. Donc c'est comme ça que les choses doivent se faire. Ici, à Kananga, par exemple, vous savez que la conséquence déjà commence à se faire sentir parce que les anciens abonnés de cette banque congolaise se sont ruinés tous vers la justice. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait un ça ne va pas, donc il y a un ça ne va pas. Et ils ont saisi la justice contre la banque, donc contre la BCC et le gouvernement congolais qu'on qualifie de civilement responsable. Donc moi je pense que cette situation, c'est vrai que nous lisons tous, nous suivons ce qui se fait sous d'autres yeux, mais chez nous ici, laissez-moi vous dire qu'il s'agit pure et simple de la mauvaise foi, tout simplement pour qu'on puisse...
Oui, donc Maître Adrien, parce que vous nous révélez que l'affaire a été portée à justice, est-ce que jusque-là, il n'y a aucun résultat, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de jugement rendu par rapport à ça,
au niveau de Kananga, par exemple? Non, je suis pendante devant les cours des tribunaux ici, et puis je pense que la première affaire connaîtra peut-être son issue dans 3 ou 4 semaines. Maintenant, JR, vous savez maintenant, la conséquence c'est quoi? La population est totalement découragée. La population n'aspire plus confiance à n'importe quelle banque, parce que tout le monde est réservé maintenant, parce qu'il ne sait pas l'essor qui lui sera réservé
dans d'autres banques dans les jours à venir. Oui, parce que la crainte aujourd'hui, c'est vrai, notre invité l'avait annoncé lorsque nous avons fait le débat autour de la procédure des bancarisations, pour nous annoncer d'une manière officieuse que dans les jours à venir, il y aura encore d'autres banques qui vont fermer, qui seront déclarées en faillite. Et là, je crois encore le processus de liquidation, le temps que ça va prendre par rapport à la taille de l'entreprise, les clients ne seront pas désintéressés le plus tôt. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé de Kananga. On va prendre Maître Sonzil qui est à Lubumbashi. Maître, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne de la paix.
Voilà, quel regard portez-vous sur ces processus de liquidation de la banque congolaise?
Monsieur JR, c'est regrettable pour ce pays, puisque j'estime que cette politique de liquidation est devenue monnaie courante et récurrente. Mais sans pour autant produire des faits favorables à l'endroit des clients qui ont pu loger l'argent dans cette banque-là, pas de taux favorables à l'endroit même des travailleurs qui sont renvoyés sans indemnisation de sortie, ce qui est clair un peu. Si j'ai bien suivi l'expert qui est votre invité, il a dit qu'il a fallu qu'il y ait une étude profonde en ce qui concerne la liquidation pour évaluer les passifs et l'actif. Est-ce que le gouvernement, en déclarant cette liquidation, elle a fait ces études-là, il a fait ces études-là, ce gouvernement, on ne sait pas. Et ces gens qui ne sont pas rentrés dans leurs droits, quelles ils sont en train de mener, on ne sait pas. Est-ce ça la préoccupation du gouvernement? On ne connaît pas. Et j'ai oui encore dit, l'expert qui est avec vous, soi-disant que d'ailleurs, les immeubles et meubles sont attribués à des particuliers d'une manière frauduleuse ou quoi que ce soit. Mais avec quoi le gouvernement va indemniser les travailleurs si ces immeubles et meubles sont attribués à des personnes, à des particuliers, d'une manière cavalière? Il y a toujours des questions qui se posent. Jusqu'à quand le gouvernement voudra que cette population puisse souffrir? Puisque lorsque vous déclarez une faillite, il faut être conséquent. Il faut évaluer. Il faut savoir, lorsque je vais renvoyer ces gens à la sortie, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Aujourd'hui, la population...
Oui, parce que Maître Sonzi...
Au moment où je vous parle, je suis juste en face de la banque congolaise.
J'ai eu à causer avec les agents de la banque qui se trouvent encore ici. Il n'y a qu'un huissier qui est là, un policier qui sont en train de garder les installations. C'est juste sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila à Lubumbashi. Il faut voir comment est-ce que cette travail sont en train de trimer dans la souffrance. Monsieur J.R., vous voulez me poser une question,
oui, J.R. Oui, non, en fait, parce que en suivant notre invité tout à l'heure, on a vite compris que le processus, au fait, de liquidation, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, par rapport à la taille de la banque, par rapport à l'actif et le passif qu'on doit évaluer, mais à ce jour, c'est comme si vous demandez à ce que, en amont déjà, avant qu'on puisse passer à la liquidation d'une entreprise ou encore d'une banque, il faudrait que déjà on puisse étudier tous les préalables pour soit désintéresser les clients et aussi d'autres créanciers, afin de mettre quand même des gens à l'aise, hein, et surtout les ceux qui ont travaillé pendant des années dans cette banque.
Oui, monsieur Gilles, c'est ça même ma préoccupation. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Même pas d'écho. Les gens qui ont travaillé n'ont pas d'écho. Et j'ai appris quand même que c'était une combine qui a été faite au moment où, à la tête du gouvernement central, il y avait un autre frère qui venait d'être remercié. Et ce sont des règlements de comptes. Et que cette banque a été déclarée en faillite. Pour eux, il a fallu qu'ils puissent s'accaparer des bâtiments, des immeubles, des meubles qui appartenaient à cette banque-là. Donc, cela ne peut pas réjouir la population, M. J.R.
Voilà, merci beaucoup, Maître Sonzil. Merci beaucoup d'avoir appelé de Lubumbashi. On revient ici à Kinshasa pour accueillir Jean Sengui qui est avec nous. Jean Sengui, bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour, parole aux auditeurs.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue? Nous avons suivi Maître Adrien qui, au fait, demande à ce qu'on puisse, dans ces processus, penser déjà à désintéresser les clients. Et aussi, comme la banque n'existait plus, il a donné les cas de la banque congolaise au niveau de Kananga, qui n'existait plus. Il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure pour permettre à ce que chacun entre dans ses droits. Il ne faudrait pas que les mêmes causes qui ont produit la faillite au niveau de la BCCE et au niveau de la Banque des Crédits Agricoles ne puisse se répéter dans les cas de la banque congolaise. Voilà, sinon ça se deviendra une gangrène qu'on a du mal à écarter dans la vie économique dans les systèmes financiers congolais. Voilà, alors Jean Sengui, vous êtes en ligne. Quel est votre point de vue?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis vraiment triste quand j'ai appris cette nouvelle. Mais tu me demandes jusqu'à quand la RDC restera éternelle à fond. Parce que moi j'appelle ça fuite de responsabilité. Une banque comme celle-là qui a déjà existé pendant plusieurs années, on accepte toujours de liquider comme ça. Et même ceux qui ont travaillé là pendant des années, ou ceux qui ont de l'argent là-bas, ils vont les perdre. On a l'expérience que c'était d'autres banques qui étaient déjà avant. Et que les gens ont perdu des millions d'argent et qu'ils n'ont jamais récupéré. Alors, maintenant, mon problème, c'est que on a bien fait d'envoyer tout le monde pour recevoir les salaires au niveau de la banque.
Banque centrale.
Maintenant que les grandes banques elles-mêmes commencent à décliner les responsabilités, mais où allons-nous finalement? Est-ce qu'on va encore nous faire revenir à la carte de départ? Je ne sais pas c'est quelle façon de gérer notre pays. Donc, avec ce système ici, on restera toujours détenu. Donc, on va trouver toujours ceux qui vont bien gérer viendront de l'extérieur. C'est pourquoi, quand on va liquider cette banque-là, ceux qui vont venir vont imposer leur façon de faire au détriment de la population comme nous l'avons dit, mais c'est toujours souffrir. Pourquoi? Parce que ceux qui vont dire, la population sera obligée d'accepter cela. Et notre gouvernement ne dira aussi rien parce que c'est lui-même qui a décliné d'abord ses responsabilités par rapport à cette situation. Donc moi, je pense que c'est une attitude vraiment, ça me fait vraiment très mal. Et je suis vraiment très consterné. Je me limite là vraiment.
Merci beaucoup, Jean Sengui, de vous exprimer une inquiétude par rapport à la lenteur, la lourdeur même que connaît ce processus de liquidation de la banque congolaise, parce que les clients en pâtissent et bon nombre de gens qui ont été d'une manière ou d'une autre partenaires à cette banque. Merci beaucoup, Jean Sengui, d'avoir appelé. Aloïs, vous êtes à Kananga. Bonjour, Aloïs.
Bonjour, monsieur Jure. Merci. Bonjour à M. Michel Sommoin ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Votre point de vue, Aloïs.
Oui, merci bien pour m'avoir aussi associé à cette émission, M. Gérard. Je pense que le processus de liquidation était pris. C'est, n'est-ce pas, dans le cadre du secteur.
Oui, allô, Jean Sengui.
Allô.
Oui, allô, vous nous écoutez? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Aloïs. Voilà, Aloïs n'est plus en ligne. 081 890 6315.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse chinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Okapi met le Congo à la une.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Michel Sommoué, vous avez d'abord suivi cette première série des auditeurs. Comment vous réagissez avant que nous vous posions encore une autre question?
D'abord, je voudrais dire, hier, en remerciant les autres intervenants pour l'analyse, il y a beaucoup de questions auxquelles devrait logiquement répondre le liquidateur de la Banque congolaise. Il a quand même le devoir d'éclairer l'opinion sur l'évolution du processus, parce que c'est lui qui a la responsabilité, et pourquoi ça traîne. Mais quand il s'agit des souffrances qui sont imposées aux agents de la banque, aux épargnants de la banque. Nous savons que la Banque centrale a une double responsabilité. D'abord, elle est la banque des banques, c'est-à-dire le prêteur en dernier ressort. Qu'est-ce que la Banque centrale a fait en tant que prêteur en dernier ressort pour sauver la banque congolaise? Est-ce que la faillite de cette banque congolaise n'a-t-elle pas été quelque part voulue par la Banque centrale, d'une façon ou d'une autre? Là, je crois que c'est une question qui appelle enquête. Évidemment, je ne veux pas qu'on revienne sur les aspects judiciaires, parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, etc. Mais je pense quand même que la réflexion poussée plus loin devrait, quand on parle de la mauvaise foi, je pense qu'on devrait aussi quelque part regarder un peu plus scrupuleusement le comportement de la Banque centrale du Congo dans cette faillite de la banque congolaise. Elle, en tant que prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire le dernier filet de sécurité du système bancaire. Deuxième responsabilité de la Banque centrale, c'est la protection de l'épargne publique. Voilà la mission que l'État a confiée à la Banque centrale. C'est pour la protection de l'épargne publique. Qu'est-ce que la Banque centrale a fait pour protéger l'épargne publique, l'épargne des épargnants, les sacrifices des ménages et des entreprises qu'ils ont accepté d'endurer pour faire confiance à une banque qui a été créée et agréée dans des conditions que je pense qui ne sont pas très catholiques, à mon humble avis. Je pense que de ce point de vue, sans être juriste, on devrait quand même regarder avec un peu plus de suspicion le comportement de la Banque centrale du Congo. Ça, c'est mon point de vue. Mais je voudrais aussi dire à Maître Sonzi de Lubumbashi que non, je n'ai pas affirmé que les immeubles de la Banque congolaise ont été attribués aux individus particuliers qui sont des auteurs de corruption, qui sont impliqués, je peux dire, les mafieux cachés dans cette opération. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il faudrait quand même qu'on mène des enquêtes pour savoir si ce patrimoine-là n'a pas déjà été bradé en faveur au profit des individus qui sont justement à la base de cette mafia, de cette faillite-là. J'invite seulement aux enquêtes économiques parce que je sais qu'à une certaine époque, à la Banque centrale, j'avais été moi-même membre du comité de suivi des banques malades dont j'assumais le secrétariat. Et c'est à ce titre que je vous dis que la quasi-totalité des banques que nous avons dans ce pays sont en réalité des banques malades. Je n'en connais pas une seule qui est saine. Ce sont toutes des malades, toutes des banques malades.
Et vous annonciez déjà lors de l'émission précédente sur la bancarisation que dans les jours à venir, qu'on va encore s'attendre à la faillite qui sera déclarée dans deux ou trois banques.
Je le confirme. Je confirme que à moins qu'on joue de la complaisance jusqu'au bout, pour éviter justement de dévoiler les faiblesses et les complicités des uns et des autres, on peut continuer à entretenir un malade de façon artificielle. Mais je vous confirme que les données à ma possession, que nous traitons à partir des paramètres bancaires, indiquent clairement qu'il y a une grande banque qui est déjà à la porte du tombeau. Il y a une deuxième banque qui n'est pas des moindres, qui est en train de suivre le même schéma.
Entre-temps, les clients vont en pâtir.
Les clients vont en pâtir. Je ne dis pas cela pour créer la panique. Je dis cela pour alerter l'opinion et préserver, sauver l'épargne des Congolais. Parce que la preuve est là. La BCCE a fait faillite. Les épargnants ont perdu des millions des millions de dollars. La Sosa Bank, elle a fait faillite. La NBK a fait faillite.
La banque
de placement a fait faillite.
La Trade Bank
a fait faillite. La banque à la confiance d'or a fait faillite. Toutes ces banques ont fait faillite et sont nombreuses. Il faut continuer la liste jusqu'à l'infini. Et toutes ont été déclarées en faillite par la Banque Centrale du Congo. Et toutes, ou presque, sont passées par un comité de gestion de la Banque Centrale qui est parti avec commission redresser la banque. Et toutes sont mortes. Et aucune des banques mortes n'a indemnisé les clients. Et nous sommes dans un système financier, un système bancaire, où les dépôts ne sont pas garantis. Donc, dans d'autres pays, on a inventé le système de garantie des dépôts pour préserver les épargnants, leur éviter les désagréments qui surviennent à la suite de la mauvaise gestion des établissements bancaires. Mais chez nous, cette assurance n'existe pas, l'assurance dépôt n'existe pas. Alors, ça fait un problème. Il n'y a plus que la Banque Centrale, qui malheureusement, en même temps, assume une fonction qu'elle ne devrait pas assumer, c'est-à-dire l'autorité de supervision bancaire, et fait office de ce qu'on appelle la commission bancaire. Dans tous les pays du monde, le suivi de l'activité des banques, le suivi de la gestion prudentielle des banques, n'est pas faite par les banques centrales, elle est faite par un comité spécial, la commission bancaire, qui fonctionne dans tous les pays du monde. Sauf chez nous, où la Banque Centrale accumule toutes les responsabilités.
Exceptionnellement.
Alors qu'elle n'en a pas.
Voilà, alors Michel, on va encore ouvrir le standard avec Aloïs qui est à Kananga et Germain aussi dans la même ville. Aloïs, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, merci d'être venu en ligne. Voilà, quel est le regard que vous portez sur ce processus de liquidation de la Banque Congolaise?
Oui, monsieur le journaliste, je devrais dire que annoncer le processus de liquidation de la banque congolaise est une chose. Et passer à l'exécution qui est annoncée en est une autre. Par les pires que je voudrais faire en rapport avec cette situation, et la perception que nous avons tous les niveaux possibles dans notre pays au concept de processus. On sait au moins que le processus prend du temps. Mais est-ce que c'est pour autant dire que cela peut prendre le temps que ça peut prendre, pour ne pas me répéter dans ce que vous avez dit dans votre introduction.
Oui.
Alors, moi j'aime ça, un fait selon lequel, dans ce pays, parce que une fois que quelque chose est annoncé, et que l'on prend du temps pour pouvoir la réaliser, c'est comme pour dire qu'on est devant une quelconque violation. Alors je voudrais là poser un peu une petite question directe à monsieur l'invité, monsieur Michel Somouin, pour lui demander est-ce qu'on peut parler dans ce cas d'un abus, on peut parler de la violation comme nous constatons chaque fois qu'il y a des mesures qui sont annoncées qui par moment ne sont pas mises en application. Qu'est-ce que le vice peut répondre par rapport à ça?
Merci beaucoup Aloïs, je vous donne peut-être une partie de la réponse avant que l'invité puisse insister davantage. J'imagine que vous nous avez pris en cours de cette émission. L'invité avait dit que le temps que cela peut prendre dépend essentiellement de la taille de l'entreprise. Parce que, on ne doit pas évaluer l'actif et les passifs dans un temps bref, donc s'il s'agit d'une entreprise de grande taille. Donc il faut vraiment du temps et le sérieux dans cette évaluation. Merci beaucoup Aloïs. Germain, vous êtes à Kananga également. Bonjour Germain.
Oui, bonjour à tous.
Vous avez la parole Germain. Quel est votre point de vue?
Merci. Donc par rapport à cela, donc, monsieur le journaliste, vous comprenez où notre invité a parlé et a commencé par beaucoup d'inquiétudes dans son parler. C'est une inquiétude qu'il exprime vis-à-vis des liquidateurs du gouvernement. Voilà. Vous-même en parlant, c'est une émission de réflexion, voilà. Beaucoup d'intervenants l'ont dit. C'est un problème très sérieux. Le même gouvernement demande d'ouvrir des comptes bancaires. Ce sont des sociétés, même des privés, d'ouvrir des comptes bancaires, de passation des marchés ou des financements, d'autres institutions se passent toujours d'une façon bancaire, tout ça. Ce sont eux-mêmes qui nous exigent dans nos aéroports de ne pas passer à l'aéroport avec de tels montants, dépassant 10 000, on ravit des histoires comme ça. Et c'est toujours le gouvernement, en cas de problème de liquidation, on n'avise pas cette population pauvre. On ne les avise pas, il y a des problèmes et c'est la population qui est toujours négligée en ce sens. Écoutez, monsieur le journaliste, mon point de vue sur la Banque congolaise, d'ailleurs moi-même qui pense que je suis victime de cela. Donc, moi je trouve que c'est inutile, peut-être pas inutile, mais je dis que c'est très difficile. Ils n'arriveront pas à cette solution, à ce que je sache. Voilà l'expérience que notre invité parle d'autres banques, jadis, même jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'il y aura toujours des solutions vis-à-vis de personnes qui avaient ouvert des comptes sur cette banque. À mon avis. Mais je trouve
oui.
que
oui, Germain, ce qu'il faut oui, faire, Germain, c'est... Germain?
Oui.
Donc vous nous confirmez que vous êtes parmi les clients lésés de la Banque congolaise?
Bien sûr, bien sûr.
À Kananga?
Bien sûr.
Vous aviez un compte?
Et oui, j'avais un compte.
Voilà. Alors donc aujourd'hui, vous n'êtes pas encore rentré dans vos droits depuis qu'on a lancé ces processus de liquidation. Mais semble-t-il qu'il y a un groupe qui a été, il y a certains qui ont été déjà servis par la Banque centrale.
Oui, merci. C'est ça, c'est que la Banque centrale laisse dire. Mais nous sommes à Kananga, on peut vérifier par plusieurs canaux. Je crois qu'ici, on avait même traduit en justice les trucs pendant, je crois, des cours des tribunaux d'ici. Localement, il n'y a pas eu encore des solutions. Je ne sais pas, peut-être les autres peuvent les témoigner, mais de mon côté, je dis non.
Voilà. Merci beaucoup, Germain. Alors, Mwamba, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes à Kamina. Voilà, on a des petits soucis avec... On a des petits soucis avec votre ligne. Est-ce que vous pouvez pas changer votre position ou quitter carrément là où vous êtes? Vous êtes au Katanga. Voilà, alors Jean, c'est vraiment difficile, Mwamba. On ne peut pas continuer avec vous avec cette mauvaise communication. On revient à vous, Michel Somoy. Il y avait des questions directes.
Oui, il y avait une question de Louis à Kananga qui demandait si le fait que le processus de liquidation prend tout ce temps, est-ce que c'est une question, on peut appeler ça un abus ou une violation? Je ne sais pas répondre à des questions d'ordre judiciaire comme ça, parce que ça, ce sont les qualificatifs, il paraît que ça, c'est que les tribunaux aient même statut sur la question. Mais ce que j'ai dit qui est important, c'est que il y a quand même responsabilité partagée. Parce que dans la mesure où, sans être juriste, encore une fois, mon analyse par le simple souci de bon sens, dans la mesure où il y a une banque centrale du Congo qui agrée les banques et qui a agréé une banque dans des conditions très très problématiques, très stables, et que cette banque effectivement au bout de quelques de trois ans fait faillite au détriment des épargnants, et que c'est la même Banque centrale du Congo qui est la protectrice légale de l'épargne publique. Je pense quand même que sa responsabilité est engagée, quelque part. Bon, sinon des individus. Mais quant à ce qui concerne, par rapport à la question de Germain à Kananga, où vous avez fait observer qu'il y a quand même quelques gens qui ont été servis, quelques clients qui ont été servis, là je voudrais vous dire, Gilles, que nous connaissons ce système-là. lorsqu'on avait liquidé la BCD, justement, la banque
congolaise de développement.
Pour le développement. Mais il y a des clients, pour vous faire rembourser, vous êtes client de la banque, mais il y a des gens, il fallait passer par des pourboires pour pouvoir vous faire figurer votre nom sur la liste qu'on devait rembourser. Si vous ne passez pas par des manigances, par des magouilles compliquées, vous êtes renvoyé à votre tombe, tout simplement. Donc, il y a, je vous ai parlé de, en ce qui concerne des banques, je regrette beaucoup la mafia qui règne dans ce secteur. C'est vraiment un véritable pandémonium dans le système bancaire, dans une réglementation chaotique, des comportements inacceptables dans un pays sérieux qui se déroule au sein du système bancaire congolais. Ça, c'est un problème pour lequel je pense que nous devons faire attention. Parce que lorsque je parle des banques malades, et des faillites, parce qu'en réalité, toutes ces banques sont aussi mortes que la Banque Centrale du Congo elle-même. C'est elle la première des banques malades.
Oui, Michel.
Déclarée en faillite même depuis très longtemps.
Mais Michel, il y a quand même des préoccupations de certains observateurs. À ce jour, je crois qu'il y a quand même, dans le principe, des indicateurs ou encore des signaux qui annoncent une faillite quelconque qui pourrait être déclarée à l'avenir. Et pourquoi, quand les commissions qui sont commises au suivi de la santé financière de différentes banques ne déclarent pas ça avant pour prendre des dispositions utiles?
Encore une fois, UGR, c'est la commission à laquelle vous faites allusion. Je vous ai dit que c'est encore une fois la Banque Centrale du Congo qui a organisé même en son sein une direction, appelons ça un département, appelons ça de contrôle bancaire, si vous voulez, pour prendre le terme que tout le monde veut comprendre, de supervision bancaire, de suivi des activités des banques. Et c'est elle qui a là, le pouvoir de sanctionner une banque lorsqu'elle dérape des ratios prudentiels qui ont été imposés. Mais ne l'avoir pas fait, attendre jusqu'à ce qu'une banque tombe en faillite et mette en péril l'épargne des Congolais, là je pense que c'est une responsabilité qui ne devrait pas être tolérée. Il y a un intervenant qui a parlé vraiment avec tout son cœur en disant, mais on ne peut pas comprendre de ce paradoxe, c'est Germain justement.
Oui, Germain.
Ce paradoxe du gouvernement qui prône la bancarisation, qui veut pousser les Congolais vers une culture bancaire, l'ouverture des comptes. Mais en même temps, le gouvernement semble ne pas prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les Congolais du comportement malheureux de certains gestionnaires de banques et de certains gérants. Parce que lorsque je regarde la raison d'être des banques et les difficultés qui accompagnent notre système bancaire, je ne vois pas une seule banque qui va être sauvée. Il y a même... Ne vous laissez pas impressionner par la grandeur ou l'étendue de certains immeubles que vous voyez sur le boulevard. Parce que certains immeubles ne sont plus devenus que des appartements mis en location. À l'intérieur, là-bas, à la place des services bancaires, vous entrez dedans, ce sont des locataires qui occupent tel appartement, tel locataire, telle activité, telle entreprise qui sont dedans, et vous admettrez mes clients encore à l'extérieur, banque X ou Y. Mais les activités bancaires elles-mêmes sont réduites presque à nul. Pourquoi? Parce que nos banques ne sont pas capables d'abaisser les coûts de transaction. Alors que dans tous les pays du monde, quand on crée les banques, si les banques interviennent dans le monde entier, plus que ne le font les marchés financiers, je parle des marchés boursiers, des bourses des valeurs, des actions, des obligations et autres, vous verrez que même aux États-Unis, où il y a le marché boursier le plus développé, les banques interviennent encore dans l'économie pour plus de 56% des transactions financières, ce n'est pas encore par les banques. L'Allemagne, n'en parlons pas, c'est même plus de 70%. Le Japon a plus forte raison. Mais pourquoi ces banques, pourquoi les gens recourent plus vers les banques? Parce que les banques ont la capacité d'abaisser les coûts de transaction. Primo, les banques ont la capacité de gérer ce qu'on appelle techniquement, je ne vais pas entrer dans les détails, la symétrie de l'information, c'est-à-dire l'antisélection et l'aléa moral. Les banques ont la capacité de diversifier leur portefeuille. les banques ont la capacité d'assurer ce qu'on appelle la transformation financière. C'est-à-dire, nous empruntons à court terme, mais nous prêtons à long terme, et à partir de cette activité, nous générons le plus gros de nos bénéfices. C'est ça que les banques font à travers le monde. Quand vous regardez tout ça, la diversification, la capacité de gérer le coût de transaction, la capacité de réduire les risques liés aux opérations bancaires, j'ai parlé de la symétrie de l'information, toutes ces caractéristiques qui sont attribuées à une banque qui se veut efficace, elle n'existe pas dans le cas du Congo. Les banques que nous voyons ici sont des petites boutiques simples, pures et simples, qui sont venues pour accompagner les multinationales de leurs pays respectifs dans leurs opérations de transaction ou de prédation du patrimoine congolais. C'est ce qu'elles font. Mais l'intermédiation financière à proprement parler, elles ne sont pas capables de la faire. Elles ne la font pas. Et ça met en péril l'épargne publique. Voilà pourquoi je disais la fois dernière, quand on parlait de la bancarisation, qu'il est malheureux que l'État ait décrété la bancarisation de la... J'accepte quand même le terme, même s'il est impropre, la bancarisation de la paie des enseignants, alors qu'il n'a pas encore mis en place un environnement qui permet l'éclosion d'une activité financière viable et correcte, sécurisante. Beaucoup de Congolais sont victimes du comportement des banques. J'ai rappelé les faillites bancaires. Je devrais rappeler même aussi les conséquences des réformes monétaires qui ont eu lieu au niveau de la Banque centrale, 1979, 1993, etc., qui ont détruit la fortune des Congolais, le bonheur des Congolais. Pourquoi ? Parce que l'environnement n'est pas approprié. Nous disons à l'État qu'il faut mettre d'abord en place l'environnement. C'est pour ces raisons-là que les Congolais ont fui les banques. Qu'on ne vienne pas nous donner l'impression que aujourd'hui le gouvernement nous apprend ce que c'est qu'une banque. Nous vivons dans ce pays où on a vécu avec des banques qui ont fonctionné, qui ont prospéré dans ce pays et qui ont aussi contribué à l'épanouissement de l'économie nationale jusqu'à une certaine période, je dis bien, avant que une certaine mafia ne s'installe dans ce pays, avec les Dumeni, les Blé Banques sur la BCC, l'Union des banques congolaises avait déjà échappé une première fois. On est venu la rattraper par les Congolais, même avec les Libanais, etc. Ça continue comme ça, ça va continuer ainsi si voilà. Le gouvernement ne s'assume pas rapidement pour mettre en place un environnement viable.
Merci beaucoup, Michel. On va prendre cette troisième série des auditeurs avec Kabacha qui est à Bukavu et Victor Mbazangungu. Kabacha, bonjour.
Bonjour, papa.
Vous avez la parole.
Le processus de liquidation ne dure pas longtemps. Lorsque le parquet s'emploie vraiment et s'emploie déjà lui-même à liquider l'entreprise. Dans le cas où le jugement n'a pas donné un moratoire de refonctionnement de l'entreprise, car les actifs sont généralement vendus aux enchères, et si pas aux enchères, les actifs sont réévalués par les experts à la matière et selon la spécificité des actifs. Et c'est étonnant que Et c'est étonnant que cela nous passe plus de 2 ans la liquidation de cette banque. C'est vraiment étonnant. Et cela risque de faire croire aux observateurs avisés de la complicité avec le membre du gouvernement du pouvoir central au très haut niveau. Car ce que nous savons dans ce pays, c'est que la banque et le COPEC sont des structures organisées avec une bonne justification au-dessus. Mais en dessous, si on regarde bien, on voit que c'est un grand rançonnement, donc à grande échelle, qui est organisé contre des pauvres citoyens congolais.
Voilà. Merci beaucoup.
Les pauvres citoyens congolais, généralement, ne comprennent absolument rien en matière de banque.
Merci
la
beaucoup.
Banque centrale, outre son fonctionnement... Oui, papa, qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, allez-y, si vous pouvez peut-être conclure rapidement. Il y a d'autres qui attendent, okay. Kabacha.
La banque centrale, c'est la banque des banques. Nous savons que c'est la banque qui garde la monnaie de toutes les banques. Et nous demandons pourquoi seulement au Congo, que dans chaque année, il y a à peu près 2 banques qui ferment. Chaque année, il y a 2 banques qui ferment. Et c'est vraiment étonnant. Car c'est le pouvoir d'achat des populations qui tombe en ruine. Et c'est là sous les complices du gouvernement central qui ferme les yeux et ne dit absolument rien. Et je me demande le rôle du procureur de la République dans ces pays. Même ici à Bukavu, avec la copée qui marre, c'est comme ça. Parce que le gouvernement provincial nous a parlé que cela regarde les clients de la banque et de la COPEC et regarde les clients de la COPEC parce qu'ils ont pris des contrats avec cette COPEC et cela les regarde. Et le procureur ne dit absolument rien et la banque centrale renvoie 2 à 2 clients et la COPEC. Alors on se demande leur rôle, c'est quoi si ce n'est de sauvegarder et l'épargne publique. Et de nous demander d'aller déposer de l'argent dans les banques au moment que nous savons que cet argent ne nous serve à rien parce que cet argent sera escroqué. Donc allez déposer votre argent à la banque congolaise, allez
voilà, l'essentiel est dit,
déposer votre argent dans les coffres. Donc c'est pour se faire rançonner inutilement.
Kabacha, merci beaucoup parce que
à notre gouvernement,
oui.
En tout cas, de nous aider, de grâce qu'ils puissent nous aider, de nous encadrer ces banques, parce que ces banques, en tout cas, ne servent que pour les rançonnements des pauvres populations congolaises.
Merci beaucoup, Kabacha, d'avoir appelé de Bukavu. On va prendre Victor, qui est en Banzangungu. Victor, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à Michel Saumon.
Vous avez la parole, Victor.
Oui, j'allais faire deux observations. Michel, je sais que c'est un chevronné à la matière. Je voulais dire, est-ce que la Banque Centrale du Congo, notre Banque Centrale, la banque de banque, comme venait de dire l'autre auditeur, est-ce que cette banque-là est normale? Parce que entendre parler Michel Saumon, c'est que nous vivons toujours dans cette situation de banque en liquidation et consort, de création de banque, tout ça validé par la Banque Centrale. L'impression qu'on a, c'est que la Banque Centrale elle-même devrait vraiment être auditée. Parce que d'après toutes les informations que nous apprenons, même la Banque Centrale du Congo a des germes de faillite. Et pourquoi, sinon, qui peut parler, dire la vérité sur le fonctionnement de la Banque Centrale? Parce que tout ce que Michel Saumon est en train de dire là, ça prouve à suffisance que notre Banque Centrale est aussi dans une... Excusez-moi du terme, le terme, mais dans une magouille aussi bizarre.
Oui, ça, oui,
donc
ça,
il faudrait arriver aussi à parler réellement de cette banque centrale congolaise. La deuxième chose, aujourd'hui, beaucoup de banques à travers le monde ont connu des situations difficiles, surtout les banques privées, mais qui ont été rachetées, où le banque centrale, les trésors publics, a mis de moyens. On a vu ça aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais voyez les trésors publics congolais, quand il y a une banque en faillite, avec les trésors congolais qui est déjà en faillite, qu'est-ce qu'ils permettent? Donc, on est un peu dans une distraction dans notre pays, et malheureusement, les élites, les intellectuels qui comprennent cette situation parfois le faire, et la population accepte n'importe quoi. Liquidation de banques, mais voyez la liquidation des entreprises, ou alors la faillite des entreprises. Une entreprise telle que SNCC, j'apprenais hier, je crois, par votre radio, qu'il y a 82 mois d'impaiement, d'arriéré de salaire. Est-ce qu'une entreprise pareille, elle n'est pas en faillite? La Régie des eaux n'est pas en faillite? La SNL n'est pas en faillite? Non, nous devons prendre conscience dans ce pays. Et que les gens comme Michel Saumon, qui connaissent beaucoup ce genre de matière, qu'ils soient là pour mobiliser dans des petits cercles de réflexion, pour que les Congolais prennent conscience de la situation désastreuse que nous sommes en train de courir. Et même la Banque Centrale, moi je ne crois pas à notre Banque Centrale. Je ne crois pas.
Voilà. C'était notre débat, Victor. Je crois que dans les jours à venir, on tentera quand même de faire une émission autour de la Banque Centrale. Nous l'avons prévu, peut-être, on l'avait prévu les années passées, pour nous faire une idée sur la relation très versatile entre la Banque Centrale et les institutions de Bretton Woods. Alors nous l'avons pas eu un répondant, donc un invité détail pour en débattre. Je crois que nous allons mener encore des démarches dans les jours à venir pour faire une émission, un débat autour de l'état santé financière, donc de la Banque Centrale. Merci beaucoup, Victor. On va terminer avec vous, Michel Saumon. Vous êtes encore en ligne?
Je suis en ligne, Dieu.
Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir sous le regard porté sur le processus de liquidation de la Banque Congolaise?
D'abord, permettez que je remercie les derniers intervenants, M. Kabacha et Victor Ndouzi, que j'ai suivi avec une bonne attention. Je sais que ces deux analystes qui sont même très très sévères dans l'analyse économique du pays, et ils ont raison. Faut-il faire? Mais je nous viens de vous parler de ce qui s'est passé lors de la crise financière et économique mondiale. Les banques ont été achetées par les États, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on a vécu. Qu'est-ce qu'il y a dans les banques? Il faut recapitaliser nos banques, parce que aucune de nos banques ici n'a un capital qui puisse mettre les épargnants en sécurité. Il faut les recapitaliser. Des voies pour la recapitalisation des banques existent. Mais nous disons en même temps dans ce pays que nous avons des réserves de change de 1,7 à 1,8 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces réserves de change? Où sont-elles? Comment un pays en difficulté peut-il se permettre d'aller placer à l'étranger ses réserves d'échange au lieu de les mettre dans son... Par exemple, les prêter aux banques pour que les banques soient en mesure de prêter à l'économie nationale. Pourquoi on prend des réserves d'échange, on va les placer pour des minables taux d'intérêt qui ne rapportent même pas grand-chose? Voilà une voie, voilà un comportement que je pense être responsable. La fois dernière, quand on parlait de la bancarisation, hier, je vous ai dit que la banque, le gouvernement ne peut pas se permettre, ce qui se permet aujourd'hui, de l'abandonner l'économie nationale entre les mains des pays étrangers, totalement étrangers. Ce n'est pas normal. Nous avons vécu dans ce pays avec non seulement des banques qui appartenaient à des Congolais, mais même l'État lui-même avait aussi ses propres banques. Ça ne coûte que 10 millions de dollars d'après la Banque centrale pour qu'on autorise à une banque d'exister. Un capital de 10 millions de dollars. Mais entre-temps, l'État congolais a 1,7 milliard de dollars de réserves d'échange qui tarissent à l'étranger. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que Victor, il y a un problème de conscience nationale. Et je pense que, quand on parle de la conscience nationale, je félicite en cesse l'engagement de la société civile congolaise qui se bat abondamment pour que nos frères congolais puissent avoir non seulement de la conscience, mais d'abord de l'intelligence des choses qui se passent. Nous demandons si la Banque centrale est normale. Je dis qu'elle n'est pas normale parce que moi j'ai écrit un livre intitulé « La gangrène de l'économie congolaise » où je considère la Banque centrale analysée en profondeur comme étant la base, la cause, le virus qui ronge l'économie nationale et qui nous empêche même d'avoir la moindre chance de faire éclore même un embryon d'une économie nationale. C'est ce que nous voyons qui fonctionne aujourd'hui. Encore une fois, Victor fait allusion à la SNCC, à l'AGI, à toutes ces entreprises qui sont en faillite ici, la semaine et autres. Mais il fait allusion à ça. Mais c'est l'économie qui n'existe pas.
Michel Somoué, on va s'arrêter là. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de réfléchir ensemble avec les auditeurs autour de cette thématique. On se retrouve à très bientôt.
Merci.
Voilà, nous remercions toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Guy Manzango était à la mise en onde, Noëlla Luzito à la réalisation. Gilles Lungembo vous a coordonné et présenté ce programme sous la supervision de Nicole Gaga. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.